Bien. Je crois que la première chose qu'on peut dire quand on veut essayer de situer ce qu'est l'Église romaine, c'est qu'il suffit d'une lecture rapide de l'Évangile, du livre des Actes par exemple, ou bien des épîtres de Paul, pour se rendre compte que l'Église catholique n'est pas l'Église telle que nous la voyons dans le Nouveau Testament. Ceci, les exégètes et les théologiens catholiques l'admettent, parce que c'est tellement visible que dire et prétendre le contraire est absolument impossible, serait intenable. Mais les théologiens catholiques prétendent que l'Église a évolué et que c'est normal, que l'Église étant une réalité vivante, comme toutes les réalités vivantes, est amenée à évoluer. Et que si l'on trouve dans l'Église catholique moderne des aspects, des traits qui sont étrangers au Nouveau Testament, ils étaient contenus implicitement dans l'Écriture, comme, si vous voulez, le fruit arrivé à maturité est contenu implicitement dans la graine, dans le germe. Et que l'évolution actuelle de l'Église n'est finalement que l'épanouissement, la manifestation de ce qui était en germe dans la semence de l'Évangile que Jésus et les apôtres de l'Église primitive ont semé. Alors évidemment, c'est très habile comme présentation et comme défense, je dirais. En fait, nous avons là affaire à un de ces raisonnements multiples et nombreux qui ont une de ces apparences de sagesse et que l'Église catholique, dont l'Église catholique raffole particulièrement. En fait, si on va plus loin que l'apparence de sagesse qu'il y a contenue dans ce raisonnement, nous pouvons nous demander ceci. C'est vrai que l'Église est une réalité vivante. Il est donc normal qu'elle connaisse dans une certaine limite une certaine évolution, mais elle doit au moins garder les caractéristiques essentielles qui ont été voulues par son fondateur, par Jésus et par les apôtres. L'Église du Nouveau Testament reste et demeure malgré tout normative. Et même en concédant le maximum, en entrant dans la vision catholique, eh bien, on peut se demander si, en reprenant cette image du germe et du fruit, le fruit doit quand même être conforme au germe primitif. Or là, il n'est non seulement, si vous voulez, ce n'est pas conforme au germe, je dirais c'est contraire. Il y a même des éléments qui contredisent ostensiblement et nettement l'enseignement de l'Écriture sur l'Église et sur un certain nombre d'autres doctrines. On ne peut pas dire que l'Église catholique ait gardé la même nature que l'Église primitive et soit de même nature que l'Église primitive. Maintenant, pour reprendre les choses d'une manière un petit peu plus équilibrée, il faut reconnaître qu'il y a quand même dans l'Église catholique un certain nombre d'éléments qui sont évangéliques, qui sont bibliques, notamment depuis Vatican II, le retour à une piété que l'on veut davantage biblique et évangélique. Il y a un certain nombre de traits évangéliques très, très nets et qui sont aussi indéniables. Ce n'est pas l'Église catholique n'est pas, par rapport à l'Église biblique et néo-testamentaire, un corps étranger. Mais je crois que, pour résumer ce qu'est l'Église catholique, nous dirons qu'elle est un mélange. Elle est un mélange de traits foncièrement bibliques et évangéliques, et puis d'éléments extérieurs, d'éléments qui sont étrangers à la foi véritable, d'éléments étrangers à l'Évangile, et qui sont souvent venus, d'ailleurs, comme nous avons l'occasion de le voir en histoire de l'Église, quand nous verrons justement toute cette évolution qui a conduit à l'Église catholique moderne, qui sont venus au travers de la culture hellénistique gréco-romaine, n'est-ce pas, et puis ensuite, disons, d'un certain nombre d'éléments internes au développement occidental. Et que nous reprenons finalement ce qui a été notre slogan quand nous avons commencé l'histoire de l'Église, vous avez occidentalisé le Christ. Et c'est finalement le gros reproche que l'on peut faire en tant que l'Église issue de la Réforme, à l'Église catholique, et précisément quand nous verrons l'histoire de l'Église, nous verrons comment la Réforme était justement une tentative pour faire un tri dans ce mélange, en s'efforçant de garder ce qui était authentiquement biblique et évangélique, et aussi en cherchant à rejeter le reste. C'est la raison pour laquelle la Réforme insiste sur le mot « seul ». Vous savez, les cinq points fondamentaux de la Réforme, ça, « sola fide », par la foi seul. Hein, nous aurons l'occasion de reprendre chacun de ces points. Et le mot « cela », n'est-ce pas, était extrêmement important parce que l'Église catholique ne niait pas que l'on pouvait être sauvé par la foi, mais elle ajoutait par la foi et les œuvres. Et la Réforme expurgeait donc, faisait le tri dans ce mélange, et disait la foi seule. Le deuxième point, sola scriptura, par la seule Écriture, l'Écriture seule. L'Église catholique n'a jamais nié que l'Écriture était une des sources de la révélation. Mais elle dit, il y a d'autres sources de la révélation, il y a la tradition. Et la Réforme disait non, l'Écriture seule. Sola gratia, par la grâce seule. Parce que, tout en niant l'importance de la grâce, tout en reconnaissant l'importance de la grâce, l'Église catholique ajoutait les mérites pour que le salut puisse être complet. Alors voyez-vous, c'est constamment ce mélange que l'on retrouve dans l'Église catholique. Des choses qui sont vraies, qui sont justes, mais qui se trouvent déformées par le fait qu'on y ajoute un certain nombre d'autres réalités qui sont étrangères à la révélation biblique et qui finalement déforment finalement le message complet de l'Évangile et la physionomie même de l'Église. Et en font une réalité finalement dans laquelle nous pouvons certes admettre qu'il y ait d'authentiques chrétiens, mais qui, pour le plus grand nombre, masquent les véritables réalités du salut. Alors ça, si vous voulez, c'est la présentation générale. Le premier point que nous envisagerons ce soir, c'est justement ce sola scriptura, l'Écriture seule, ou si vous le voulez, le problème de l'Écriture et de la tradition dans l'Église catholique romaine. Là où nous affirmons, n'est-ce pas, l'Écriture seule, l'Église catholique dit l'Écriture et la tradition, les deux sources de la révélation. Le Concile Vatican II a réaffirmé la réalité de ces deux sources qui sont égales quant à leur autorité pour la dogmatique de l'Église et pour la conduite, d'ailleurs, pour la conduite dans tous les domaines. Dogmatique, éthique, ecclésiologie, tout ce que tu voudras. Hein? Tous les domaines de la foi. Alors, qu'est-ce que c'est que la tradition? Eh bien, la définition qu'en donne l'Église catholique est celle-ci, c'est la doctrine enseignée de vive voix par Jésus et par les apôtres. Ce qui veut dire qu'il y a eu un certain nombre d'enseignements de Jésus et des apôtres qui ont été mis par écrit, c'est le Nouveau Testament, et un certain nombre d'autres qui n'ont jamais été mis par écrit, mais qui ont été conservés dans la mémoire de l'Église, disent les catholiques, et transmis oralement depuis l'époque des apôtres jusqu'à nos jours. Et c'est dans cette tradition vivante, entre guillemets, que l'Église catholique puise de temps en temps ces dogmes nouveaux, n'est-ce pas, qui apparaissent, et qui, d'après elle, en fait, seraient toujours des dogmes anciens. En fait, ce que nous pouvons dire ici, la première objection qui vient, c'est que l'existence de cette tradition, évidemment, est absolument intenable historiquement. Je crois d'ailleurs que les historiens catholiques les plus honnêtes l'admettent aujourd'hui. C'est une pure supposition qui ne repose sur aucune base historique. Il est extrêmement difficile, par exemple, de prétendre que Jésus et les apôtres ont donné un enseignement oral sur le pape, par exemple, qui s'est transmis jusqu'à nos jours. N'est-ce pas? Historiquement, c'est absurde. Enfin, bon. Alors, on cite par exemple les théologiens catholiques, cite Jean 21, 25. Vous savez, la fin de l'évangile de Jean, où Jean dit ceci: Jésus a fait encore beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Je ne crois pas que si on les écrivait, le monde entier les contiendrait. Donc, les catholiques disent, eh bien, voyez-vous, il y a ce qui a été écrit, et puis il y a ce qui n'a pas été écrit, mais qui a été transmis oralement. Disons que cet argument aurait une certaine base réelle si, n'est-ce pas, il n'y avait pas une déformation de l'écriture. La Bible ne dit pas que Jésus a enseigné beaucoup de choses qui ne sont pas contenues dans ce livre, mais qu'il a fait beaucoup de choses qui ne sont pas contenues dans ce livre. C'est très différent. Car si, effectivement, Jésus avait enseigné d'autres choses, je mets des choses essentielles, car l'Évangile n'est qu'un résumé de l'enseignement de Jésus, mais c'est, disons, ça suffit. C'est le résumé qui nous permet de savoir quel était son enseignement. S'il avait enseigné d'autres choses, d'une nature différente, sur le plan de la doctrine, par exemple, alors là, évidemment, on aurait de quoi s'inquiéter. Mais si Jésus a fait seulement des choses qui ne sont pas contenues dans ce livre, par exemple des miracles, bon, quand nous disons l'évangile que Jésus a guéri l'aveugle, Bartimée, par exemple, bon, et par exemple, si on découvrait des sources, comme quoi Jésus a guéri, je ne sais pas moi, 25 autres aveugles. Qu'est-ce que ça ajouterait de plus? Rien. Ça n'ajouterait rien. N'est-ce pas? Alors, je crois qu'ici, c'est extrêmement subtil, toujours comme argumentation, car les théologiens catholiques sont toujours très très subtils. N'est-ce pas? On déforme l'écriture. Hein, et on remplace, sans qu'on s'en rende compte, le mot dire, le mot faire par le mot dire. Enfin, Jésus a fait d'autres choses, alors eux ils mettent, il a dit d'autres choses. Nous verrons la même chose par exemple pour la primauté de Pierre. Hein. Implicitement, les catholiques ajoutent, n'est-ce pas, Pierre et ses successeurs. Alors ce n'est pas contenu d'une manière explicite, mais implicitement c'est là. Alors il faut faire très très attention parce que il y a autrement, n'est-ce pas, cette séduction qui peut s'exercer à ce niveau-là. Alors, quand on en arrive à ce stade, la tradition a la même valeur que l'écriture. Maintenant, je crois que les... Oui, tu veux dire quelque chose
Là, je dois faire. Je me fais l'avocat du diable.
Vas-y.
Dire que bon, c'est journalier, d'accord, mais... Donc, je pense qu'il y a comme un passage auquel il pourrait peut-être se baser.
Oui.
Et vous savez, ce que j'ai fait au début du livre des Actes, dans la période qui s'écoule entre Pâques, disons,
Pentecôte.
Et Pâques et l'Ascension.
Oui.
Vous avez dit que Jésus leur
enseignait
tout ce qui concernait le royaume.
Oui.
Alors, et en fait, on n'a pas écrit noir sur blanc, les propos qu'il a pu retenir.
Non.
Donc, bien sûr, théoriquement, on a l'essentiel qui est résumé dans tout le reste.
C'est ça.
Bon, mais est-ce qu'il ne pourrait pas, donc, dire de cet événement, des arguments comme quoi, comme on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, alors eux pourront dire.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, c'est-à-dire qu'évidemment, on n'a pas tout ce que Jésus a enseigné mot pour mot.
Oui.
Il est évident que. Les discours de Jésus, par exemple, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, sont des résumés de l'enseignement que Jésus a donné. Mais c'est en même temps le condensé. Et là, alors, il faudrait qu'on développe justement tout ce problème de la tradition orale. Parce que c'est très important, justement, pour les catholiques, n'est-ce pas, cette transmission orale. C'est vrai que les évangiles ont été transmis oralement, on l'a vu, on en a parlé, je crois, la dernière fois, pendant tout un temps. Entre le départ de Jésus, mon ascension, et puis la destruction du temple, nous avons vu que c'est la destruction du temple qui a amené l'Église à mettre par écrit les paroles de Jésus. Et ces paroles de Jésus étaient, comme je disais, un résumé, mais en même temps c'était un résumé qui était appris par mémoire, de mémoire, par les disciples, par on appellerait aujourd'hui les néophytes, ceux qui allaient être baptisés. Ils apprenaient l'Évangile. On l'apprenait par cœur, de A jusqu'à Z. Pourquoi? Je n'ai pas d'autre moyen. n'avait pas d'autre moyen de le garder. On n'avait pas la possibilité de s'acheter une Bible à 50 francs. C'était des prix absolument incroyables. S'il avait fallu mettre ça sur papier, l'imprimerie, l'édition n'était pas développée comme aujourd'hui. Alors, on apprenait par cœur. Alors, pour apprendre par cœur, il y a tout un ensemble de techniques. Nous, on ne sait plus apprendre par cœur aujourd'hui dans notre monde moderne. Mais à cette époque-là, il y avait tout un ensemble de techniques. Et la technique, c'était le formulisme. On réduisait l'enseignement d'un rabbi, par exemple, à des
formules
qui s'enchaînaient les unes après les autres, de façon à ce qu'il soit facile de les mémoriser. Et ça vous donne des espèces de formules lapidaires, qui sont typiques de l'Évangile, qui donnent le verset. Dans notre langage moderne, ça s'appelle le verset. Qu'est-ce que c'est le verset ? C'est une formule qui est facile à retenir et qui résume tout un enseignement beaucoup plus long, qui est d'une extrême densité, qui résume, si vous voulez, toute une sagesse. Un petit peu c'est le même principe que le proverbe. Vous savez, le proverbe de la sagesse populaire, même, je ne sais pas moi, citez-moi un pierre qui roule n'amasse pas mousse, par exemple. Bon, ben voilà une formule qui est facile à retenir. Du point de vue mémoire, parce que vous avez un problème d'allitération, pierre qui roule, n'amasse pas mousse, etc. Et puis qui résume toute une sagesse. Si vous le développez, alors vous pouvez en tirer des applications multiples dans bien des domaines. On faisait la même chose pour l'enseignement des rabbis, donc pour l'enseignement de Jésus de même. Et on a été amené à écrire ces choses à cause des circonstances contraire, qui avait suivi la destruction du temple, la dispersion, on craignait que finalement cet enseignement ne se perde, au contraire. Alors, on peut poser aux catholiques la question, c'est vrai qu'il y a eu cette transmission orale de l'Évangile pendant tout un temps, mais au nom de quoi les apôtres auraient-ils été amenés à mettre par écrit certaines de ces formules-là, et puis laisser de côté, garder par oral d'autres? C'est absurde, ça ne tient pas debout. Si vraiment cette soi-disant tradition avait la même valeur que, finalement, appelons-la la tradition qui a été écrite, comment se fait-il que, sous la pression des mêmes événements, eh bien, les apôtres aient décidé de laisser de côté par oral toute une partie si importante de l'enseignement? C'est absurde. Et nous sommes bien obligés d'admettre, n'est-ce pas, que réellement l'essentiel de l'enseignement de Jésus et des apôtres a bien été écrit et résumé dans l'Évangile. Maintenant, évidemment, ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas développé ces choses-là. Ça ne veut pas dire que quand il a donné son enseignement sur le Notre Père, par exemple, qui est un exemple parfait, si vous voulez, de ce formulisme dont nous parlions, eh bien, Jésus n'a pas développé, comme nous pouvons le faire, nous, dans la prédication. C'est pourquoi, d'ailleurs, n'est-ce pas, le texte biblique se prête tellement bien au développement homilétique, au développement dans la prédication, parce qu'il est un résumé de tout un enseignement. N'est-ce pas ? Bon, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jésus a dû expliquer ça à ses disciples. Jésus a dû le développer à ses disciples. Et puis ensuite, n'est-ce pas, pour le conserver, on l'a réduit simplement à l'essentiel, laissant à chacun, n'est-ce pas, sous la direction de l'Esprit Saint, si je peux dire, reconstituer pour lui-même cet enseignement que Jésus a pu donner à partir de ce texte. Il y a l'Église, vous savez, le ministère des docteurs de le faire. Alors, oui.
La tradition orale, finalement, la tradition orale propose plutôt la tradition écrite.
Oui, souvent, bien sûr. Oui. Absolument, absolument. 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 Et en histoire d'Église, il est très facile de mettre en évidence à quel moment et sous la pression de quelles circonstances tel et tel dogme, soi-disant puisé dans la tradition, est apparu. Et ça, on le fera. On le fera, c'est très clair, c'est très net. C'est ça. Alors, la notion de tradition, aujourd'hui, dans l'Église catholique, fait un peu problème. Parce que, justement, il y a tellement de c'est un tellement boiteux comme argumentation que finalement, on présente les choses d'une manière un peu différente. Par exemple, l'écriture aussi, même l'écriture, la notion d'écriture. dans l'Église catholique est un peu différente de la notion d'écriture dans les églises issues de la Réforme. Car l'écriture, pour les églises issues de la Réforme, est une norme objective et absolue. Pour le catholicisme, elle n'est norme que dans la mesure où elle est interprétée par l'Église, par le magistère de l'Église. L'écriture ne peut être lue que dans l'Église, disent les catholiques, et demande à être interprétée par l'Église. Et ce serait, d'après la tradition catholique, le pouvoir des clés remis à Pierre. Vous savez, dans le texte célèbre sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, où Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu ouvriras, sera ouvert, ce que tu refermeras sera fermé. Par conséquent, l'Église romaine, en la personne, entre guillemets, du successeur de Pierre, a le pouvoir des clés, ça veut dire le pouvoir d'interpréter l'Écriture. Et très longtemps, l'Église catholique a interdit la lecture de la Bible à ses fidèles, de peur précisément que, et pour cause, ils soient amenés à interpréter différemment l'Écriture que ce que faisait l'Église catholique. Et lorsque l'Église catholique a enfin consenti à mettre la Bible à la disposition et à la portée du fidèle de base, si j'ose dire, il y a eu une condition et une restriction majeure. C'est que il ne pouvait y avoir entre les mains du catholique convaincu, disons, qui respectait les directives de l'Église, que des versions traduites d'abord par des personnes autorisées et reconnues capables de traduction dans le sens de l'interprétation de l'Église, et surtout avec des notes doctrinales qui interprétaient l'Écriture dans le sens de la tradition de l'Église. Et ça, ça existe jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. En principe, le bon catholique ne peut pas avoir entre ses mains, comme ils disent, de Bible protestante. Ça veut dire de Bible dépourvue de notes. Ou simplement, comme la colombe, là, avec des notes qui sont uniquement historiques, linguistiques ou géographiques, etc. Il faut des notes doctrinales, des introductions à chacun des livres, qui disent comment il faut le comprendre, comment il faut l'interpréter. Et c'est la seule interprétation qui soit l'interprétation valable. Et les catholiques ont une expression qui est très belle d'ailleurs, mais qui est encore une fois un sophisme. Comment c'est ? Ce qui veut dire ?
Il y a le désimatum qui doit être donné, mais d'autre part, il y a toujours le compitermissum sous lequel on roule.
Ah oui. Mais avec l'autorisation des supérieurs. Mais ils disent qu'ils lisent l'Évangile selon la mémoire de l'Église. L'expression est très belle, mais extrêmement dangereuse. Extrêmement dangereuse dans son interprétation. Alors, le magistère a le seul droit d'interpréter l'Écriture. Le magistère est la seule autorité qui donne autorité à l'Écriture. Donc l'Écriture n'est pas source d'autorité. C'est l'Église qui est source d'autorité. Et quand on dit l'Église, c'est la hiérarchie. Et quand on dit la hiérarchie, c'est-à-dire en fin de compte le pape. C'est de lui que vient l'autorité. Et il peut se permettre, éventuellement, à la limite, si j'ose dire, de contredire l'Évangile. Hein. Bien entendu, il ne dira pas qu'il l'a contredit, mais qu'il l'interprète. Hein. Il l'interprète d'une certaine manière. À la lumière de la tradition, à la lumière de la foi de l'Église, etc., etc. Donc c'est l'Église qui est l'autorité. Alors, je crois que ça c'est une première chose qu'il faut que nous mettions en évidence, la différence d'autorité dans l'Église catholique et dans les Églises issues de la Réforme. Dans les Églises issues de la Réforme, l'autorité est une autorité objective, extérieure à l'Église, l'Écriture. Pour l'Église catholique, c'est l'Église qui est la source de sa propre autorité et qui utilise pour nourrir sa réflexion, si j'ose dire, les deux sources de la révélation que sont l'Écriture, lue dans l'Église, et la tradition. Et la tradition, où se nourrit-elle en quelque sorte? Eh bien voilà ce que nous disent les théologiens catholiques. Elle se nourrit des documents, des signes et des monuments de la foi. De l'art chrétien des premiers siècles, de la liturgie et des actes des conciles. Comment? Alors, vous voyez, c'est très vaste. Documents, signes et monuments, par exemple les apocryphes du Nouveau Testament, qu'elle reconnaît comme apocryphes d'ailleurs, mais dans lesquels elle se permet de trouver un certain nombre de réalités qui lui semblent vraies et qui sont élevées au rang de dogmes. Par exemple, le culte des morts, mais par exemple, vous savez, l'imagerie de l'enfer, là qu'on trouve avec les petits diables qui font rôtir les damnés dans des marmites, etc. Bon, vous trouvez ça dans les apocryphes des évangiles, hein, et que l'Église a rejeté en tant qu'inspiration sur le plan de l'Écriture, mais en tout cas, on retrouve cette idée, n'est-ce pas, des damnés qui rôtissent en enfer, non pas dans la théologie officielle de l'Église catholique, mais enfin dans la piété plutôt populaire, n'est-ce pas, mais c'est puisé de là, par exemple. Hein. Bon, l'histoire de l'âne et du bœuf, vous savez, qui sont autour de la crèche de Bethléem, bon, c'est pareil, ça, vous trouvez ça dans les apocryphes, le nom des mages, Gaspard, Melchior et Balthazar, c'est pareil, ça vient des apocryphes dans lesquels l'Église puise, n'est-ce pas, elle puise, selon sa sagesse, illuminée soi-disant par le Saint-Esprit, qui lui permet de discerner ce qui dans les apocryphes est vrai et faux. Alors évidemment, c'est un terrain tellement miné que c'est vraiment dangereux de s'y aventurer. Alors, il y a un autre problème qui se pose en regard de la tradition. C'est que la Bible, on peut facilement la transporter. Hein. Elle est à la disposition de chacun. Donc, on peut avoir la source de la révélation chez soi. On peut y puiser chaque matin. On peut savoir ce que Dieu pense. On peut savoir ce que Dieu veut. On peut savoir ce que Dieu révèle, ce qu'est la vérité. Bon. Si j'étais catholique, j'aurais une des sources de la révélation. Mais l'autre. Je vais m'amuser à avoir chez moi les monuments de l'art chrétien primitif, l'ensemble des apocryphes. Par exemple, dans le domaine de l'infaillibilité du pape, vous savez que ce n'est qu'au Concile de Vatican I, en 1870, que le dogme de l'infaillibilité du pape a été finalement élaboré. Dogme qui a été une des pommes de discorde terribles entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Vous savez que l'Église d'Orient n'a jamais voulu entendre parler de ce caractère de l'infaillibilité du pape, et c'est la raison pour laquelle l'Église catholique avait toujours hésité à sauter le pas et à promulguer le dogme. Bon, eh bien, vous avez eu d'autres conciles, donc 1870, à publier le dogme de l'infaillibilité du pape. Vous avez d'autres conciles, au Moyen-Âge, par exemple, qui ont, eux, souligné, non pas l'infaillibilité du pape, mais l'infaillibilité des conciles. Donc, contredisant, jouant les conciles contre le pape. Donc, l'Assemblée des évêques contre le pape, et vice-versa. Alors, vous avez des moments dans l'Église catholique où c'est la tendance inverse, vous avez... On accorde plus d'importance, si vous voulez, au concile, et d'autres moments, on accorde plus d'importance à l'autorité du pape. Et c'est un jeu de bascule permanent comme ça. Alors on est toujours sur un terrain mouvant. On est toujours dans quelque chose de vague, d'approximatif, etc., où il n'y a jamais quelque chose de certain. Vas-y.
Vous parlez de la réalité du pape, ce n'est pas juste la réalité de
lui-même
qui n'est pas divisée par
ses œuvres.
Oui.
Après ça, par exemple,
en Hollande.
Il y en a en France aussi un peu. Enfin, oui, mais enfin, ils ne sont pas nombreux. Hein. Bon, alors on est dans un terrain mouvant. Hein. C'est, donc, en résumé, pour cette histoire de la tradition, nous pouvons dire ceci. La dogmatique catholique est boiteuse. Elle a deux pattes, l'une qui est plus courte que l'autre. Et alors, elle avance évidemment dans une course qui est clopin-clopant, quoi. Et c'est ça, justement, qui fait sa faiblesse essentielle. Alors, il y a des rattrapages constants dans le domaine dogmatique, pour ce qui est des catholiques. Les choses sont formulées en termes vagues, qui peuvent se prêter toujours à des interprétations diverses, selon les époques. Et c'est ainsi, par exemple, que la dogmatique catholique est un tout qui est intangible, mais qui pourra, par exemple, à certaines époques, être escamoté. Par exemple, le culte de la Vierge et des Saints. Il fut une époque, juste après le Concile du Vatican, où, si j'ose dire, on avait mis un petit peu de côté ces choses-là.
Vatican II,
oui. Et puis maintenant, au contraire, avec l'apparition du nouveau pape, hop, ça ressurgit. Alors, dans ce temps-là, on édulcorait un peu les choses, oui, mais enfin, vous savez, oui, voilà, la Vierge, c'est tout simplement une image que les femmes comprennent mieux, etc. Bon, alors ça paraissait, on dit, mais c'est vrai, les catholiques, ils évoluent, etc. Et puis, paf, ça ressort, avec les mêmes outrances, les mêmes affirmations péremptoires, etc. Et puis peut-être demain, si, par opportunisme, l'Église catholique estime nécessaire de mettre ça à nouveau sous le boisseau, ça sera mis. Et ça pourra surgir à d'autres époques. Alors on est toujours dans ce jeu de bascule constant, n'est-ce pas ? Selon les circonstances, pour des raisons d'opportunisme, on va insister davantage sur tel dogme et pas sur tel autre. Mais en fait, les choses ne changent pas. Alors voilà, si vous voulez, en gros, ce gros problème de la tradition qui est le point numéro un, n'est-ce pas, de divergence entre catholiques romains et Église issue de la Réforme. Avant de parler des problèmes de la messe, de l'autorité, etc., c'est ça. C'est le problème de la tradition qui est la pomme de discorde première. C'est pour ça qu'on a commencé par là. Bon, est-ce que vous voulez poser des questions avant qu'on aborde le deuxième point ? Tous les dogmes mariaux ont été surtout énoncés par...
Oui. C'est un peu marrant qu'au moment où on écumélise, finalement, ils sont des dogmes qui sont plus...
Oui.
Ah, mais là, ils
étaient dans les... C'était surtout sous Pidouze, qui était un dévot très ardent de la mariologie. Et c'est lui qui a énoncé ce dogme de Marie co-rédemptrice, du dogme de l'Assomption d'abord, qui avait été, alors lui qui existait dans la tradition, une tradition qui remonte à partir du 3e siècle au moins, hein. Il y a eu déjà des cultes mariaux très tôt à ce moment-là. Ensuite, au moment du Concile d'Éphèse, où on a proclamé Marie Mère de Dieu, justement pour lutter contre Arius. Et puis, ensuite, n'est-ce pas, il y a eu donc ces fêtes de l'Assomption, avec le dogme de l'Immaculée Conception et de l'Assomption de Marie, qui était en filigrane, mais que l'Église n'avait jamais osé énoncer en tant que dogme. Et donc, c'est Pidouze qui a fait ça, donc ici, au début du siècle. C'était marial. Oui, anti-ecuméniste, oui. C'est Jean-Paul II, Jean 23 qui a succédé à Pidouze, qui a ouvert l'Église sur le plan de l'ecuménisme. Ensuite...
En même temps, il a fait des... Il parlait politique aussi avec
l'armée merveille, je ne sais pas. Oui. C'est moins important, si vous voulez, si tu veux, que ce qu'a fait son prédécesseur, la Pidouze. Et Pidouze a promulgué un autre dogme, celui de Marie co-rédemptrice. Ça, c'est affreux. Marie a une part dans le salut qui a été acquis par le Christ. C'est terrible, ça. Co-rédemptrice. Comment ? De la tradition. Toujours pareil. De la tradition. Et puis dans la tradition. Alors, souvent, la tradition aussi peut naître dans la piété populaire. Et c'était le cas pour le culte marial. Le culte marial est né dans la piété populaire. Et pendant tout un temps, l'Église... ne veut pas heurter de front cette piété populaire, etc. l'Église catholique a une vision de la masse des fidèles et fait la distinction entre trois choses. D'une part, l'Église, et ce qu'elle appelle l'Église, c'est uniquement la hiérarchie, c'est-à-dire le pape, les évêques et les prêtres. Ça, c'est les trois strates de la hiérarchie. Le pape, les évêques et les prêtres. Ça, c'est l'Église. Les fidèles, ça ne compte pas, ils ne sont pas l'Église dans la dogmatique catholique. Bon. Non. Les fidèles peuvent être sauvés parce qu'ils sont au bénéfice des sacrements que l'Église distribue. L'Église étant dépositaire des sacrements qu'elle distribue aux fidèles. Alors, parmi ces fidèles, donc, on n'exige pas grand-chose des fidèles, finalement. Justement, qu'ils participent aux sacrements, puisqu'ils ne sont pas l'Église, en quelque sorte. Donc, il peut y avoir toute une de vastes nuances parmi les fidèles. Des fidèles engagés, qui ont une foi vraiment catholique, si je dis, aux fidèles occasionnels, festifs, qui viennent sur les roulettes pour le baptême, pour l'enterrement et pour le mariage. Toutes sortes de possibilités. Hein. Alors, ceux-là ont une foi populaire, qui peut parfois être absolument hérétique par rapport même à l'enseignement de l'Église. Mais l'Église va éviter de heurter de front ça. Prenez par exemple le cas de ces fameuses apparitions-là qu'il y a à Lourdes, etc., et en ce moment à Kérémisène, là. Bon. Eh bien, voilà un domaine. Comment ? La Vierge apparaît dans le ministère, là, de temps en temps, à une espèce de paysanne, là, parce qu'il y a des révélations extraordinaires. Alors, pour la canonisation des saints, c'est pareil. Hein, on adore tel et tel saint, etc. Alors, pendant tout un temps, l'Église ne prend pas parti. Hein, c'était le cas pour Lourdes, ne prend pas parti. Et puis, quand la pression populaire est devenue tellement intense que, finalement, c'est devenu un phénomène de masse, l'Église l'intègre. L'intègre par phagocytose. Ça entre dans le système. Hein, ça entre dans le système. Après l'avoir essayé de le canaliser plus ou moins pour que ça fasse pas trop de vagues quand même, quoi, trop de remous. Mais ensuite, c'est entré. Voilà, et hop, c'est intégré. Bon, le mouvement charismatique, c'est typique. Hein, et c'est apparu en dehors de l'Église en tant que, au sens catholique du terme, c'est-à-dire de la hiérarchie. Bon, eh bien, pendant tout un temps, on observe. On ne prend pas de front. Surtout quand ça prend des proportions énormes. Ah, quand ça a pris des proportions importantes, maintenant, on le canalise, on l'intègre, on le digère, on le phagocyte. Et on le récupère. L'Église catholique a toujours récupéré tout ce qui a existé. Elle a récupéré la philosophie grecque à l'époque des Pères d'Église. Elle a récupéré les mouvements humanistes de la Renaissance. Là, elle s'est cassée le nez parce qu'il y a eu la Réforme. Bon. Ensuite, ils ont récupéré la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle, le scientisme, le modernisme, et puis le socialisme, d'une certaine manière, ils ont essayé de le récupérer, plus ou moins ils sont en train de le réussir. C'est la récupération générale. Hein. C'est un petit peu l'auberge espagnole. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Du moment... Oui, comment ?
Sauf pour celui qui essaie d'aller un peu plus loin, toi.
Non, même pas, du moment que tu ne mets pas en cause le système. C'est-à-dire que si tu veux, à partir du moment où tu ne mets pas en cause l'autorité ultime de l'Église, à partir du moment où tu ne mets pas en cause l'existence de la tradition, à partir du moment où tu ne mets pas en cause l'autorité finalement de cette hiérarchie-là, ça va. Tu peux finalement, à condition de ne pas trop rouler dans les brancards, tu peux trouver ta place. C'est pour ça que, par exemple, les charismatiques se sentent à l'aise comme des poissons dans l'eau. C'est quelqu'un qui a fait une réflexion comme ça un jour, qui m'avait raconté.
Mais non,
j'ai dit,
mais
chez
les catholiques,
bah oui, il y a tout, voilà, il y a la place pour tout le monde. Bah oui, c'est ça. Exactement. 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 Tout à fait ça. Tout à fait ça.
Bon, voilà, quand on a une communauté, on voyage comme nous, carrément, c'est. Vous n'avez pas de problème avec votre hiérarchie, non, pas mal.
C'est-à-dire qu'ils essaient quand même de sabrer les gens qui sont trop extrémistes dans ce domaine-là. Lui, sans doute, il était un peu à la limite.
Il était à la limite.
Sans doute, oui. Mais enfin... Alors, la technique catholique est toujours la même. C'est un peu la technique de la pieuvre. Vous savez? Ou de, je sais pas, certains protozoaires, là, des amis, des choses comme ça. Vous savez, ça lance des pseudopodes, là, comme ça, dans une certaine direction. Alors, qu'est-ce que c'est ces pseudopodes? C'est des gars qui sont engagés dans une certaine direction. Par exemple, bon, pour l'œcuménisme, pour le mouvement charismatique, pour le socialisme, pour ces choses-là, bon, vous avez, par exemple, les prêtres ouvriers, hein, que Pidouze avait lancé. C'était au moment où l'Église catholique essayait de récupérer le socialisme et enfin, tous ces mouvements-là, le communisme, etc. Bon, on en voit des gars comme ça qui y croient, ils y croyaient dur comme fer, les gars, au socialisme, etc. Bon, on les envoie dans le monde ouvrier, là, en plein milieu de ces gens que l'on veut, en quelque sorte, évangéliser, entre guillemets, comme ils disent, c'est-à-dire en fait récupérer. Bon, alors... Là, ils donnent le changisme. Vous voyez, ben, l'Église s'intéresse à vous, on est délégué par la hiérarchie, l'Église s'ouvre sur vos problèmes, sur votre vision des choses, etc. On est d'accord avec vous, etc. Formidable, les gars. C'est vrai, l'Église, elle change. L'Église qui était conservatrice, maintenant, elle change de bord, etc. C'est formidable. Bon, on fait quelques déclarations de la hiérarchie aussi, dans tout le monde dans le même sens, bon, etc. Et puis quand le poisson a mordu, toc, on ramène. Ça, c'est typique. Et ça, les anciens prêtres qui sont au milieu de nous, par exemple M. Dilem ou M. Gatou, nous ont expliqué ça. Historiquement, ça se vérifie toujours. Toujours. Et c'est ce qui se passe avec l'œcuménisme. Avec Jean XXIII et Paul VI, il y a eu, au contraire, le moment où on envoyait des gars. On dit, c'est formidable, des prêtres qui viennent avec nous, qui se rapprochent de nous sur le plan doctrinal, mais l'Église catholique, elle change, etc. Et puis en ce moment, on est dans la phase où ils ramènent, avec Jean-Paul II, etc., où ils réaffirment les choses. Vous avez toujours ce double mouvement, un moment où l'Église s'ouvre et un moment où elle se durcit. Un moment où elle estompe les dogmes dont je parlais tout à l'heure, hein. Et puis, à un autre moment où elle estime que le poisson est ferré, où elle réaffirme les dogmes. Alors là, elle, bien sûr, elle casse avec une partie des gens qu'elle a essayé de ferrer, mais en même temps, elle ramène d'autres.
C'est un peu la stratégie du PC.
Oui, c'est la stratégie du PC aussi, un peu, qui s'est inspirée de l'Église catholique, pas bien des aspects. Mais en tout cas, ça, c'est la stratégie catholique typique. Typique. Ah, c'est pas faire de l'anticatholicisme de le dire, c'est une constatation, il faut le savoir. Et il faut le savoir quand on a justement à fréquenter l'Église catholique, parce que en tant que non-catholique et finalement en tant que des gens qui n'appartiennent pas à l'Église catholique, et quand je dis qu'ils n'appartiennent pas à l'Église catholique, je veux dire qu'ils n'appartiennent pas au système catholique, c'est-à-dire à la hiérarchie catholique. Ça, le simple fidèle catholique n'en est pas conscient souvent. C'est ça qui est un piège. Voilà. Ils sont téléguidés, parfois sans même en être conscient. Ouais. Ah, ça c'est tout à fait la définition de la secte, c'est sûr. La plus grande secte. Donc je disais que c'est pas faire d'anticatholicisme que de dire ça, c'est qu'il faut savoir ces choses-là. Quand on a affaire avec l'Église catholique pour justement déjouer ce genre de piège et puis avoir l'attitude que Dieu veut que nous ayons avec eux. Quoi. Je vais vous citer un exemple. Hein. La première fois que nous avions eu la rencontre prêtre-pasteur, c'était la première année que j'étais ici, nous étions rencontrés avec les trois participants de ce genre de choses, c'est-à-dire les catholiques, les réformés, ça se passait à Lorient, chez Trubert à l'époque là-bas, dans son centre de Croix-Bleue. Et alors, il y avait le catholicisme était représenté par l'abbé Poirier, qui est le secrétaire du cardinal Gouillon de Rennes. Bon,
et qui était tout à fait gentil, ouvert, comme il l'est toujours d'ailleurs, c'est un gars très, très bien. Et puis, qui aime beaucoup plaisanter, il plaisante pour un ou pour un non, il met les gens à l'aise, il vous appelle par le prénom tout de suite, etc. Bon. Et puis, tout d'un coup, il sort un paquet de feuilles, comme ça, il se tourne vers Yvon Charme qui était là, il dit, regardez si notre deuxième bureau, il dit ça en plaisantant, en rigolant, regardez si notre deuxième bureau fonctionne bien. Vous vous souvenez quand vous êtes allé à Timadeuc, là-bas, pour parler du réveil charismatique, j'ai là tout le rapport de tout ce que vous avez dit. Ça vous a fait un choc, hein? Alors, c'est ça qui est très délicat avec les catholiques, c'est que quand nous parlons, nous nous engageons totalement. Nous disons tout, nous disons ce que nous pensons sans arrière-pensée aucune, en général. Eux ne peuvent pas le faire, d'une part, et d'autre part, il faut savoir que ce que nous disons, nous, eh bien, va être rapporté en haut Dieu, va être rapporté plus haut. Cet exemple-là nous montre, il y en a d'autres aussi, je pourrais citer d'autres cas comme ça. Alors je crois qu'il faut toujours, évidemment, peser très fortement, bien sûr, quand au niveau du simple fidèle, c'est pas pareil, mais quand on parle avec des prêtres, j'entends des gens qui ont à voir dans la hiérarchie, et quand on parle, on entend aussi que représentants d'église, certains, parfois, plus tard, certains d'entre vous sont appelés à participer à des rencontres des gens. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais qu'il y aura toujours un rapport à l'évêché du coin de tout ce que vous aurez dit, de tout ce que vous aurez fait. Il y a toujours un gars de l'évêché qui est là, dans toutes les rencontres qu'il y a, œcuméniques, charismatiques et autres, qui ont un caractère un petit peu officiel, et qui ensuite répercute, qui est l'oreille de l'évêque du coin. Ça, vous êtes certain.
Parce qu'eux, en général, ils sont très intègres.
Oui.
Alors donc, je dirais qu'ils parlent très facilement. Et nous, moi, on a souvent envie de répondre aussi facilement, quoi. Mais moi, maintenant, je ne pense pas que ça répond aussi facilement. Parce que eux sont intègres, mais disons que derrière, il y a quelque chose. Alors, c'est ça qui est embêtant, parce que nous, on est un peu calculateur, en quelque sorte. Il y a calculateur,
on pense,
comme un instrument comme des tapons. Tout bien, absolument. Mais alors, quelquefois, eux, ils s'épanchent, je dirais facilement. Oui.
Absolument. Une autre chose aussi qu'il faut savoir dans les rapports à ce niveau-là, c'est que le catholicisme, depuis plusieurs siècles, n'a rien inventé, n'a rien innové sur le plan pratique. Je parle dans le domaine de soit de l'évangélisation, soit du domaine social, etc. Tout ce qui a été fait l'a été par récupération, par copiage de ce qu'ont fait les églises issues de la réforme. Bon, le scoutisme, ça a été une récupération. La croix d'or, c'est-à-dire l'œuvre parmi les alcooliques, ça a été une récupération et un copiage de ce qui s'est fait au niveau de la croix bleue. Le mouvement charismatique et maintenant les méthodes d'évangélisation, nous on a vu ça, c'était typique. Au début, n'est-ce pas, les catholiques nageaient dans tout ce qui était charismatique. Ils venaient vers nous pour apprendre. Puis quand ils ont eu l'impression d'avoir tiré tout ce qu'ils pouvaient tirer de nous, salut, au revoir et merci, maintenant les vrais charismatiques c'est nous. C'est ça. Méfiez-vous des imitations. C'est ça la mentalité, c'est typique. C'est typique. Alors, dans le fond, là, on est devenu aussi plus prudent à ce niveau-là, nous. Ne pas, je reprends un petit peu cette parole de Jésus, évidemment, c'est un petit peu excessif en ce qui concerne les catholiques, mais quand Jésus disait, ne donnez pas vos pères le pourceau, de peur qu'ils ne se retournent contre vous et ne vous déchirent, ben, il y a un peu de ça. Faire attention, finalement, ne pas dévoiler nos méthodes, nos buts, notre vision d'une manière trop précise aux catholiques. Ça, je crois que c'est une devenue aussi une de nos attitudes, parce que on a eu du tout. On a eu du tout.
Il y a des choses, je ne sais pas comment on va parler ça, mais on en parlera peut-être, qui est assez difficile à expliquer, là,
Alors on peut dire une première chose, c'est qu'on dit n'importe quoi parce que l'Église catholique a appris aux gens à faire dire n'importe quoi, à faire en sorte que l'Écriture dise n'importe quoi. Parce qu'effectivement, trouver dans le passage de Paul où il est question du feu qui éprouvera le cœur de chacun la révélation du purgatoire, il faut le faire. Hein? On peut prendre de nombreux exemples de ce genre-là. Bon, alors, que dans le fond, quand on veut lire l'Écriture sans vouloir la forcer, sans vouloir l'utiliser, hein, et au contraire, pour écouter ce que Dieu veut nous dire, eh bien, ce que Dieu dit, finalement, devient très très clair, du moins en ce qui concerne l'essentiel. Deuxièmement, effectivement, alors là, il y a le ministère du Saint-Esprit et le ministère des docteurs. Alors, à l'indifférence, justement, alors ils vont dire, mais qu'est-ce qui diffère, alors, finalement, de ce que nous faisons, nous? Puisque, dans le fond, il y a donc un magistère aussi chez vous qui définit, etc. Non, parce que ce magistère-là n'est pas infaillible. C'est ça. C'est tout simplement une mise en lumière de la vérité, une approche de la vérité. Mais ce n'est pas l'autorité dans les églises issues de la réforme n'élabore pas des dogmes qui vont avoir un caractère contraignant en matière de foi, etc. Bon, eh bien on va rester là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on verra donc le problème de la hiérarchie du pape, etc.